Bonjour, bienvenue dans Politique. Notre invité aujourd'hui, Philippe Bas. Bonjour Philippe Bas.
Bonjour.
Vous êtes sénateur Les Républicains de la Manche, ancien président de la commission des lois du Sénat, ancien secrétaire général de l'Élysée sous Jacques Chirac. Vous avez par ailleurs été ministre délégué à la sécurité sociale du gouvernement Villepin et vous avez également fait un passage éclair comme ministre de la Santé. Alors si l'objectif de l'exécutif était de resserrer les rangs de la majorité, la loi sur la sécurité globale aura surtout eu pour effet de tendre les relations avec l'opposition et plus largement avec les organisations de défense des libertés publiques. Le texte est dénoncé comme une nouvelle fragilisation de l'état de droit, notamment son article 24 qui vise à limiter la diffusion d'images de policiers. Il faut dire que cette proposition de loi vient s'ajouter à un arsenal sécuritaire déjà conséquent, héritage des législations antiterroristes. Le débat est d'autant plus épidermique que la France vit depuis le mois de mars sous un régime d'exception, l'état d'urgence sanitaire, prolongé pour l'instant jusqu'au 16 février. Ces circonstances semblent avoir conduit à une plus grande concentration des pouvoirs, incarnée notamment par le recours répété au Conseil de défense au détriment du Conseil des ministres, laissant ainsi apparaître la dimension autoritariste des institutions de la Ve République. Le Parlement n'en paraît que plus marginalisé, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Eh bien, voici ce dont nous allons discuter pendant la prochaine demi-heure, votre compagnie Philippe Bas. Mais je voudrais commencer cette discussion par cette proposition de loi de sécurité globale. Hier, les députés ont voté l'article qui est le plus controversé, c'est le fameux article 24 qui punit le fait de diffuser des images ou des éléments d'identification des forces de l'ordre, je cite, « dans le but qu'ils soient portés atteinte à leur intégrité physique ou psychique ». Vous, Philippe Bas, sénateur LR, êtes-vous favorable ou défavorable à cet article ?
Au-delà de tout le débat politique autour de cet article, je veux d'abord vous dire que c'est un article tout simplement mal fait. Et je crois qu'on ne fait pas de bonne politique sans bonne technique. Et j'y reviendrai dans un instant. Mais ce que je veux d'abord vous dire, c'est que policiers et gendarmes sont à rude épreuve. Ils sont confrontés à la violence, au terrorisme, vous l'avez mentionné. Dans un certain nombre de manifestations qui dégénèrent, ils sont confrontés aux Black Blocs. Et donc, ils ont le monopole légal de l'usage de la force, mais dans le cadre de la loi, d'une manière qui doit être proportionnée. Rien n'est plus facile que de montrer des policiers ou des gendarmes faisant usage de la force, puisque c'est leur mission. Et quand on sort ces images de leur contexte, ça ne suffit pas à démontrer que les forces de l'ordre seraient violentes ou brutales. Je ne crois pas, dans l'ensemble, que ce soit le cas. Évidemment, les forces de l'ordre ont une éthique, une déontologie. Celles-ci doivent être respectées. Les manquements doivent être sanctionnés. Mais nous devons avoir le souci de la protection des forces de l'ordre. Donc, je ne récuse pas les motivations de cet article 24. Par contre, je considère qu'il n'est ni fait ni à faire. Alors comment faire maintenant? Pourquoi est-ce qu'il est ni fait ni à faire? D'abord, il touche à la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Ça, c'est une loi sacrée de la République, une grande loi de la République. Vraiment, il faut être très prudent quand on fait ça. Or, ce qu'on vise principalement, ce ne sont pas les journalistes. Ce sont les réseaux sociaux, sous couvert de pseudonymes, d'anonymat, qui diffusent des images et incitent parfois à la haine, voire au crime, il faut le dire.
Sauf Philippe Bas, que ce sont les journalistes et la presse qui se sont sentis directement visés. Mais alors oui. Même s'il faut préciser que l'article a été un peu enrichi, puisqu'il a été ajouté le fait que cette mesure ne peut porter préjudice au droit d'informer. Ça n'empêche pas, je le disais, un certain nombre de défenseurs des libertés publiques de manifester leur opposition à cet article 24. Et juste avant de poursuivre la discussion, je voudrais vous faire entendre ce qu'en disait hier matin sur RMC la défenseure des droits, Claire Hédon.
Pour moi, cet article, il n'est pas acceptable parce que nous, contrôle externe des forces de sécurité, ces vidéos nous ont été et nous sont actuellement très utiles quand il y a des dérapages des forces de sécurité. Je ne vois pas l'intérêt de rajouter un article comme celui-là qui est contre-productif et qui risque d'entacher la confiance qu'on a dans notre police. Et je vous redis, ce point-là pour moi est essentiel et de façon générale sur mon mandat, il faut retrouver confiance dans notre démocratie, dans notre société. Ça passe par le respect des droits et ça passe par la question du contrôle des forces de sécurité.
Pour que ce soit bien clair, Philippe Bas, est-ce que vous êtes plutôt du côté de la défenseure des droits, Claire Hédon, ou plutôt du côté du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin ?
Je pense qu'il faut réécrire entièrement cet article 24 qui souffre de graves faiblesses. Premièrement, je le disais à l'instant, il touche à la loi de 1881. Ça n'est pas nécessaire et si on est de bonne foi en disant qu'on ne veut pas toucher la presse, alors il ne faut pas modifier la loi qui protège la presse. Deuxièmement, nous avons dans ce texte une rédaction qui est totalement inefficace, elle est sans portée réelle, c'est en bon vieux français du window dressing, une répression Canada Dry. Et pourquoi? Tout simplement parce que il y a un bon principe de notre droit pénal qui dit qu'il n'y a pas qu'il y a un principe de légalité des délits et des peines. C'est-à-dire que si vous voulez mettre quelqu'un en prison, il faut que ce soit pour des raisons qui sont bien précisées dans la loi. Or, l'expression porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique, et que ce soit le but de la diffusion des images, elle est totalement imprécise. Moi, je souhaite bon courage aux magistrats si une telle disposition devait entrer en vigueur. Donc,
on verra peut-être d'ailleurs, Philippe Bas, hein, si le Conseil constitutionnel est saisi et si le Conseil constitutionnel valide toute ou partie de cette loi. Je n'ai pas précisé quand je vous ai présenté.
Mais il ne faut pas qu'elle aille jusqu'au Conseil constitutionnel. Alors, on verra dans bien cette rédaction. Ouais. Oui. Il faut dire oui à la protection des policiers et des gendarmes, non à une fausse protection, c'est le cas de l'article 24, et que cette protection se fasse dans le cadre du respect de la liberté de la presse. Et le Sénat, comme d'habitude, son rôle, ça va être d'arranger cela en faisant revenir le fleuve dans son lit pour que on ait une rédaction claire. Qu'elle ne porte pas atteinte à la liberté de la presse, mais qu'elle protège les policiers et les gendarmes. C'est l'équilibre que nous devons trouver.
Brièvement, Philippe Bas, est-ce que, en l'état, vous voteriez pour cette loi, contre, ou vous abstiendriez?
La question ne se posera pas, car la commission des lois du Sénat, j'en suis certain, trouvera une rédaction équilibrée. Nous n'aurons pas à voter cette rédaction.
Je n'ai pas précisé quand je vous ai présenté tout à l'heure que, en autre fait d'armes, vous avez présidé la commission d'enquête sur l'affaire Benalla. Est-ce qu'avec cette loi, l'affaire Benalla aurait été possible, puisqu'elle a été révélée suite à une vidéo qui avait été faite, non pas par des journalistes, montrant les interventions d'Alexandre Benalla lors d'une manifestation?
Mais tel que le texte est rédigé, oui, elle aurait été possible parce que il aurait fallu, pour interdire la diffusion de l'image, prouver que la diffusion avait été faite dans le but de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'un policier ou d'un gendarme, ce qui évidemment n'aurait pas été le cas.
Plus largement, Philippe Bas, alors il y a donc cette loi sur la sécurité globale, mais il y a un certain nombre d'autres législations, la loi sur le séparatisme, enfin la loi confortant les principes républicains, la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, il y a eu la loi de programmation de la recherche qui a été votée dernièrement avec notamment un article qui vise à sanctionner les intrusions de personnes extérieures à l'université. Là encore, les défenseurs des libertés publiques s'inquiètent d'une dérive qu'ils qualifient de liberticide. Est-ce que vous, sénateurs Les Républicains, vous partagez ce sentiment d'une dérive liberticide aujourd'hui en France, et en tout cas du fait qu'on mette davantage en avant la sécurité au détriment de la liberté?
C'est un vieux débat, vous le savez bien. On ne peut pas pour autant baisser la garde face à des menaces qui se sont multipliées sur les lois de la République et la vie en société en France. Le terrorisme, c'est pas une invention, c'est une réalité. La société de plus en plus violente, ça n'est pas non plus une invention. Donc il faut que la République sache s'armer, mais elle doit le faire dans le respect de l'état de droit. Je vois effectivement la nécessité de faire reculer le communautarisme. J'ai moi-même contribué par une proposition de révision de la Constitution à essayer de bien distinguer ce qui relève du fait religieux et ce qui relève d'une propagande politique que je qualifierais de subversive. Il faut s'armer, ça, je crois que c'est incontestable. Et pour autant, je suis extrêmement vigilant pour tout ce qui concerne la liberté religieuse, la liberté d'association. Et il faut...
Ah, alors on a perdu...
On va regarder ça de très près dans cette fameuse loi, dont le nom a changé déjà 3 fois, lutte contre le communautarisme, lutte contre le séparatisme, défense des valeurs de la République. Au fond, toute cette confusion montre que le gouvernement n'est pas très à l'aise avec ce sujet.
Dois-je en déduire que vous ne reprenez pas à votre compte cette idée d'une dérive liberticide aujourd'hui en France, même si vous dites que ça n'est pas nouveau, mais sauf qu'il y a un effet d'accumulation. Les lois, elles viennent se superposer les unes aux autres, et on voit bien quand même que depuis un certain nombre d'années, la sécurité prime sur la liberté. Est-ce que la République n'est pas d'autant plus forte qu'elle est capable aussi de défendre, dans le même temps, les libertés publiques? Alors, il y a un décalage manifestement un peu important.
C'est tout l'enjeu de trouver le point d'équilibre. Dans votre question, vous ne contestez pas la nécessité que la République se défende tout de même. Et c'est vrai que la République est attaquée, et attaquer la République, c'est attaquer nos libertés. Donc, opposer, au fond, les mesures de sécurité à la liberté, c'est peut-être aussi un contresens. Mieux nous protégerons la République attaquée, mieux nous défendrons nos libertés. Le problème, c'est effectivement de rester sur une ligne de crête et de ne pas basculer d'un côté ou de l'autre. Le côté qui vous inquiète dans votre question, c'est le côté restriction aux libertés, mais l'autre côté, c'est aussi la loi de la jungle, c'est laisser faire. Et donc, nous devons trouver ce point d'équilibre. C'est notre rôle, et le Sénat en particulier, parce que c'est une institution parlementaire libre et indépendante, recherche ce point d'équilibre.
Est-ce que le Sénat a justement les moyens, Philippe Bas, d'exercer sa mission, qui est celle d'une recherche, comme vous le dites, d'un point d'équilibre, et plus largement une mission de contre-pouvoir? Est-ce que vous considérez, par exemple, que la crise sanitaire est gérée de manière, suffisante du point de vue du Sénat, et qu'elle traduit un fonctionnement normal des institutions?
C'est un bon exemple, la crise sanitaire. Le Sénat a voté les dispositions qui donnent au gouvernement les moyens de restreindre temporairement nos libertés, et pas n'importe lesquelles, la liberté d'aller et venir, par exemple, afin de ralentir ou arrêter la propagation de l'épidémie. Mais le Sénat a aussi exigé d'exercer son contrôle périodiquement, de manière régulière. Voyez, par exemple, depuis mars...
Sauf que ça a été refusé par l'Assemblée nationale. En tout cas, les propositions qui ont été faites par le Sénat n'ont pas été validées par les députés.
C'est ce que je voudrais expliquer à vos auditeurs. De fait, le gouvernement a changé d'attitude. Entre mars et ce mois-ci, il a saisi le Parlement à 4 reprises, et même à 5 reprises, parce qu'il y a une loi qui a été arrêtée en cours de discussion. Et entre maintenant et le mois d'avril prochain, c'est-à-dire pendant 6 mois, il a exigé que il puisse prendre toutes les décisions tout seul dans son coin, sans vote du Parlement, pour l'autoriser à poursuivre l'exercice de ses pouvoirs exceptionnels. Et nous y sommes opposés. La chose que nous pouvons faire dans ce cas-là, c'est refuser de voter le texte, ce qui, pour le gouvernement, est tout de même une manière de tirer la sonnette d'alarme. Ce que nous avons fait, nous disons que nous sommes prêts à consentir l'exercice de pouvoir exceptionnel au gouvernement pour lutter contre la crise sanitaire, mais à une seule condition. C'est que le Parlement, la représentation nationale, qui représente tous les Français et pas seulement une partie d'entre eux, tout le spectre politique, tous les territoires, cette représentation nationale doit exercer son contrôle, qui doit se conclure par un vote autorisant ou non la poursuite des pouvoirs exceptionnels. Eh bien, nous sommes rentrés depuis le début du mois de novembre dans une seconde phase où la verticalité du pouvoir, qui est, semble-t-il, un réflexe de ce mandat, de nouveau s'exprime sans frein, et ça n'est pas acceptable.
Justement, j'allais vous poser la question, Philippe Bas, est-ce que vous considérez que cette verticalité, que le fait que le Parlement ne soit pas suffisamment consulté à votre goût, tient à un effet un peu conjoncturel, c'est-à-dire la façon qu'a notamment Emmanuel Macron d'exercer le pouvoir, ou bien est-ce que ça n'est pas une tendance qui est beaucoup plus ancienne, d'une concentration de plus en plus affirmée des pouvoirs au profit de l'exécutif et au détriment du pouvoir législatif?
C'est une bonne question à laquelle, je crois, on est incapable de répondre sans recul historique. Je souhaite, pour ma part, que ce soit une approche liée à la personnalité du chef de l'État, à son expérience politique, qui n'est pas passée par des mandats locaux, l'expérience de la gestion des territoires, et qui réduit en quelque sorte la démocratie à un dialogue entre le président et les Français, sans tenir compte de l'expression du point de vue de ces Français à travers la représentation nationale, et à travers aussi les collectivités territoriale et ce qu'on a appelé les corps intermédiaires. Ça donne la crise des gilets jaunes.
mais ça donne aussi un réflexe de concentration du pouvoir qui n'est pas une bonne chose, parce que, si vous voulez, en démocratie, au fond, l'écoute du Parlement est une condition de l'efficacité. L'acceptabilité de mesures qui restreignent nos libertés passe aussi par le contrôle parlementaire. Et donc, on est plus efficace. C'est ce qu'il faudrait faire comprendre à l'exécutif actuel quand se soumet au verdict du Parlement régulièrement pour l'exercice des pouvoirs qui sont nécessaires pour gérer la crise, que lorsque on veut traiter tout seul ces questions.
Sauf que vous savez bien, Philippe Bas, que ce contrôle du Parlement, en général, il donne raison à l'Assemblée nationale davantage qu'au Sénat, a fortiori depuis qu'on est passé au quinquennat et que le calendrier a été inversé, et qui fait que la majorité parlementaire, en tout cas la majorité à l'Assemblée nationale, est identique à la couleur politique du chef de l'État. Il faut rappeler que le quinquennat, c'est une réforme qui avait été voulue par Jacques Chirac. Est-ce que le vert n'était pas dans le fruit à ce moment-là?
Ça n'est pas tout à fait exact. Ah. Excusez-moi de vous le dire comme ça. 75% des lois sont votées en termes identiques à la virgule près par l'Assemblée nationale et le Sénat. Ça veut dire
que... Oui, mais quand l'Assemblée nationale n'est pas d'accord, c'est elle qui a le dernier mot quand même.
Le dernier mot donné à l'Assemblée nationale n'est que l'exception. Nous ne prétendons pas bloquer l'expression majoritaire de l'Assemblée nationale, l'unité entre le président, le gouvernement et la majorité à l'Assemblée nationale est un fait politique. En revanche, la prise en compte la volonté du Sénat est, dans notre République, au fond, la seule garantie que un point de vue différent de celui du bloc majoritaire va pouvoir s'exprimer. Le Sénat ne procède pas de l'élection présidentielle. Et ça va avec l'analyse que vous faisiez, d'ailleurs. Il y a un lieu constitutionnel dans lequel le bloc majoritaire n'impose pas sa loi, c'est le Sénat. Et le Sénat, le gouvernement, la majorité, sont obligés de tenir compte de ce qu'il dit. Aujourd'hui, quand une loi comme celle sur l'état d'urgence n'est pas votée par le Sénat, évidemment, ça affaiblit cette loi. Parce que les Français entendent bien que dans les institutions de la République, il y a une assemblée qui a dit non. Et pourquoi a-t-elle dit non? Mais pour défendre les droits des citoyens. Et par conséquent, c'est un fait politique qui est un fait majeur.
Le Sénat, vous le défendez, ce qui est normal, vous êtes sénateur. Je voudrais revenir juste un instant sur ce phénomène que vous décrivez.
Je le défends parce que je suis citoyen français et que je suis attaché dans la République à l'existence de contre-pouvoirs qui évitent effectivement l'abus de pouvoir.
Je savais qu'en disant ça, j'aurais pas dû le faire parce que vous alliez intervenir. Sur le phénomène de concentration des pouvoirs, il y a une instance dont on n'entendait quasiment jamais parler avant cette crise sanitaire et qui, là, pour le coup, fait couler pas mal d'encre, c'est le Conseil de défense qui se réunit de manière assez régulière pour prendre un certain nombre de décisions. Certains y voient une façon de marginaliser le Conseil des ministres. Est-ce que, là aussi, vous diriez que ça participe de cette concentration des pouvoirs, ou bien est-ce que ce Conseil de défense n'est pas avant tout là pour faire un exercice, disons, de communication, mais que son rôle véritable politique n'est pas si important qu'on veut bien le dire?
Je choisis l'option 2, c'est-à-dire que je pense que le président de la République, au fond, prend ses décisions au sein d'une instance qu'il modèle lui-même pour avoir ce qu'il pense être les conseils les plus pertinents. S'il veut appeler cette instance Conseil de défense, cela ne me gêne pas. Je pense simplement que il est en effet en train d'activer un symbole, le symbole du président de la République agissant pour défendre les intérêts vitaux de la nation comme chef des armées, alors que l'armée n'est pas tout de même la principale institution qui soit mobilisée pour lutter contre la crise sanitaire. Donc, c'est assez singulier comme démarche, mais elle est principalement destinée à mettre en avant ce rôle fondamental du président de la République pour la défense
d'intérêts vitaux. Évidemment, il vaut mieux, plutôt que d'avoir les chefs militaires, avoir le directeur général de la santé, celui des hôpitaux, le ministre de la santé, plutôt que le ministre de la défense quand on va s'occuper d'un virus. C'est pour ça que ça paraît tout de même paradoxal, mais je n'y attache pas une importance institutionnelle considérable au-delà de ce que je viens de vous dire.
Mais par ailleurs, Philippe Bas, est-ce que ça n'est pas dans la logique des institutions de la Ve République que de permettre cette pratique hyper régalienne du pouvoir exécutif ? Alors, est-ce que Philippe Bas est encore...
Oui. Il y a nécessité en démocratie... Vous m'entendez ?
Oui, je vous entends. Il y a un décalage qui se crée plus ou moins important. On s'en excuse auprès des auditrices.
Allô ?
Et des auditeurs. Mais on vous entend toujours, Philippe Bas. Donc voilà, on va essayer de voir si on ne peut pas réduire ce petit décalage entre nos propos.
Très bien, je vous remercie. Je veux simplement dire que la Ve République est un régime parlementaire. Ce régime parlementaire, en recherche d'efficacité, a donné des pouvoirs très étendus à l'exécutif. Il ne faut pas aller trop loin dans cette direction parce que notre démocratie doit rester équilibrée. Et donc, oui, je trouve que l'instrumentalisation de trop de symboles qui renforcent la concentration du pouvoir, elle est... une source de faiblesse pour la démocratie. Elle est aussi, on l'oublie trop souvent, une source d'inefficacité. J'évoquais tout à l'heure la crise des gilets jaunes, mais je crois que un pouvoir qui s'exerce sans frein et sans écouter le pays risque le tête-à-queue à tout moment. On a absolument besoin dans une grande démocratie, surtout dans un pays où le niveau d'instruction publique est très élevé, comme la France, eh bien on a besoin de ne pas agir tout seul, on a besoin de partager les décisions, on a besoin d'écouter les autres et surtout ceux qui ne pensent pas comme vous.
Et ce partage, il passe donc, vous nous l'avez dit à plusieurs reprises, Philippe Bas, par le Sénat. C'est justement le sujet de la chronique de la semaine d'Antoine Dulster. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Alors dans notre vie politique, le Sénat, c'est vrai, a pu s'opposer au pouvoir exécutif au cours d'un certain nombre d'épisodes, d'où cette tentation chez certains de nos présidents. Pourquoi ne pas le réformer ?
Oui, c'est presque devenu un marqueur pour des responsables politiques soucieux de s'afficher comme des réformateurs quand notre démocratie semble trop éloignée des citoyens, quand les débats parlementaires semblent s'enliser dans les complications des commissions mixtes paritaires et que les gouvernements se trouvent sous le feu des critiques. Quoi de plus simple que d'attirer l'attention sur une chambre haute qui symboliserait forcément le camp de l'immobilisme. Le débat remonte en fait aux origines de la Ve République, au début de la Ve. Dans la pratique du travail parlementaire, le Sénat, institution chargée de représenter les territoires, a eu tendance à s'opposer à De Gaulle, notamment en 1962, lorsqu'il a soumis à référendum la réforme visant à faire élire le président au suffrage universel. Une forfaiture, selon Gaston Monnerville, qui était alors président du Sénat. Le général de Gaulle s'est souvenu de cette hostilité et lorsqu'il tente de relancer son action politique après mai 68, il décide de réformer cette chambre haute en la fusionnant avec le Conseil économique et social et surtout en lui retirant son pouvoir législatif. Inacceptable pour les sénateurs de l'époque. On écoute leur président, un certain Alain Poher. C'était en avril 1969. Selon Alain Poher, le projet gaullien est une erreur, une faute et une imprudence.
Une erreur étonnante, car si votre dessein est de rendre ce Sénat plus représentatif des forces vives de la nation, pourquoi diminuer à ce point ses pouvoirs ? Une faute inadmissible. Car cette Assemblée a accompli une œuvre législative considérable. Et obtenu, nous l'avons prouvé dans 96% des cas, que le gouvernement et les députés se rangent à son avis. Une dangereuse imprudence. Car vous allez précipiter dans les luttes politiques, les organisations syndicales et professionnelles qui voulaient précisément s'en tenir à l'écart. Et vous allez redonner à la France le régime de la Chambre unique qui lui a causé tant d'épreuves dans le passé et a été à l'origine de beaucoup de nos malheurs nationaux.
Et on connaît la suite, hein, l'échec de la réforme de De Gaulle proposée aux Français par référendum, la démission du général et son corollaire, la consolidation de la légitimité du Sénat pendant les années qui suivent. Alain Poher le préside, ce Sénat, jusqu'en 1992, sans se heurter à de nouvelles tentatives d'affaiblir l'institution. Mais le débat revient quelques années plus tard, d'abord dans les propositions de réforme des institutions de la commission Bartolone-Vinocq, ensuite sous la présidence d'Emmanuel Macron, après le grand débat national censé répondre à la crise des Gilets jaunes. La transformation de la Chambre haute faisait partie des pistes suggérées en quelques mots par le chef de l'État dans sa lettre aux Français de janvier 2019. Provocation, dénoncent en chœur les sénateurs, et de fait la pique du chef de l'État n'était pas dépourvue d'arrière-pensée politique. La République en marche est très faiblement représentée au Palais du Luxembourg, avec une vingtaine d'élus seulement, et le Sénat a opposé une solide résistance face aux velléités de réforme constitutionnelle d'Emmanuel Macron, ce qui constitue une nouvelle illustration de la vocation de cette Chambre dans la République, un pouvoir de modération, mais qui sait aussi, lorsqu'on le brusque, devenir un véritable contre-pouvoir.
Philippe Bas, je rappelle que vous êtes sénateur LR. Avez-vous des nouvelles de cette réforme constitutionnelle qui devait avoir lieu et qui fut stoppée, il faut le rappeler, par l'affaire Benalla?
Alors, si vous voulez, cette révision constitutionnelle, elle a été arrêtée par le gouvernement lui-même. Le Sénat n'en a jamais vu la couleur. Elle a d'abord été présentée à l'Assemblée nationale et de fait, le débat a été interrompu au cœur de ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Benalla. Mais j'ai apprécié beaucoup le reportage que vous avez fait parce que il prouve une chose, c'est que le Sénat, et c'est une bonne chose, doit toujours démontrer son utilité dans la République. Et si le Sénat a plusieurs fois été remis en question, ce sont les Français qui, à deux reprises, ont décidé de le préserver, et même à trois reprises, mais ne remontons pas le fil du temps. Le Sénat, qu'est-ce que c'est? C'est une des deux chambres du Parlement. Il est partie intégrante de la représentation nationale, il représente les Français à travers leurs élus municipaux et donc dans un réseau qui est très solidement ancré dans les territoires. Il n'est pas élu en même temps que le président de la République ou les députés et donc il n'est pas dans la dépendance du fait majoritaire, même d'ailleurs quand le président de la République et le Sénat sont d'une même majorité. Il est libre, il est indépendant, il est non aligné et son point de vue doit être pris en compte parce que il n'est pas question pour un exécutif, quel qu'il soit d'ailleurs, d'être toujours en quelque sorte mis en minorité par le Sénat parce que ça dirait quelque chose qui serait négatif pour cet exécutif. Et donc c'est un contre-pouvoir. On le voit dans le vote de la loi puisque dans les trois quarts des cas, je le disais à l'instant, on aboutit à un accord, mais on le voit aussi dans les pouvoirs de contrôle. Vous avez mentionné une commission d'enquête à laquelle j'ai participé, mais il y en a beaucoup d'autres, et à chaque fois, le Sénat va jusqu'au bout, parce que justement, ouais, le Sénat n'est pas soumis, subordonné aux faits majoritaires.
Il y a notamment une commission d'enquête, il y a notamment une commission d'enquête sur la crise sanitaire. Voilà, qui est en cours. Merci beaucoup, Philippe Bas. Désolé vraiment pour ces petits décalages qui ne facilitent pas la discussion, mais voilà, c'est aussi ça, faire de la radio en temps de reconfinement. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. Politique, c'est une émission préparée par Antoine Dulster et réalisée par Anna Holweck, avec à la prise de son Audrey Guélil, émission que vous pouvez écouter et télécharger sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France.